France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été, que vous soyez chez vous, quelque part sur la route ou ailleurs. Chaque samedi de cet été, nous recevons un acteur public ou privé pour nous aider à comprendre cette année un peu folle que nous avons tous vécue ensemble et aussi essayer de repérer les enjeux qui sont devant nous. Bonne nouvelle, nous avons du temps pour le faire ce soir. Ce soir, nous recevons Antoine Pélion, le secrétaire général à la planification écologique auprès d'Elisabeth Borne. Il était auparavant conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Avant, il travaillait au cabinet de Ségolène Royal. Vous ne connaissez pas son nom, c'est normal. C'est sa première expression publique.
France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux.
Bonsoir Antoine Pélion.
Bonsoir Dominique.
Alors, vous allez répondre à mes questions pendant un quart d'heure, puis à celle d'une contradictrice qui est déjà là dans le studio pour vous écouter. Il s'agit d'Anne Bringaud. Bonsoir Anne Bringaud.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des programmes du réseau Action Climat et je vous dis à tout à l'heure. Alors, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. D'abord Antoine Pélion, question toute simple, c'est quoi votre travail ?
Notre travail, il est auprès de la Première ministre Elisabeth Borne. Vous savez que le président de la République lui a confié cette mission. C'est un peu particulier, c'est la première fois qu'on confie à un Premier ministre la mission de la planification écologique. Et donc, on a un objectif de résultat, c'est effectivement réussir à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la préservation de la biodiversité. On a des enjeux aussi de préservation de nos ressources. On va parler de l'eau, on va parler des sols, des matériaux aussi. Le lithium, par exemple, sera nécessaire dans cette transition et nous n'avons pas en quantité illimitée. Et donc, c'est tous ces enjeux qu'il faut saisir pour réussir.
Mais tout ça, ce pilote de Matignon, c'est l'État qui dit voilà comment on fait, qui impose à tous les acteurs publics, privés, les entreprises, les ménages, enfin les particuliers.
Alors bien sûr, l'État n'est pas le seul.
C'est très vertical cette affaire.
C'est absolument, donc c'est un travail très collectif et je pense que ça, c'est vraiment un point important qu'il faut souligner. Ce qui est important, c'est donner le sens de cette transition. On voit qu'on a on est dans des périodes de crise successives, on a des transformations très profondes qui touchent le quotidien des Français, se déplacer, se nourrir, la façon de produire aussi. Et donc dans ces changements-là, il faut donner quelque part le cap et il faut donner aussi le sens des actions collectives qu'on doit mener pour donner ensuite à chacun les outils d'y arriver.
D'accord, donc ça se fait par contractualisation avec les acteurs. Vous allez voir le secteur routier, le secteur aérien. Vous leur dites, les amis, vous devez baisser de millions de tonnes de CO2 vos émissions d'ici telle date.
Alors ça se travaille avec eux déjà. C'est-à-dire qu'on va pas, on n'arrive pas vers eux en disant ça sera tant de millions de tonnes de CO2. On travaille sur qu'est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qu'il est réaliste de faire pour concilier à la fois le réalisme et l'ambition. Et ensuite, on a plein d'outils. Contractualisation, effectivement, des soutiens financiers, de la réglementation aussi. Et à chaque fois, on combine l'ensemble pour y arriver.
Si on essaye de planter un petit peu le décor ensemble, ce qui n'est pas toujours fait, reprenons des grandes données. Un Français aujourd'hui émet combien de tonnes de CO2 par an ?
Alors, à peu près 9 tonnes de CO2 par an. Et il faut bien avoir en tête que la moitié, ça correspond à des émissions qui sont faites sur le territoire national, par exemple les pots d'échappement des voitures, par exemple les usines. Et la moitié, c'est les émissions dites importées. Quand on achète un produit, quand il est produit à l'étranger, les émissions sont faites ailleurs et on les ramène quelque part en France en achetant le produit.
Et alors l'idée, c'est vous ne pouvez agir que sur les émissions qui sont faites en France.
Alors on peut agir en réalité sur les deux. Donc on va parler de la baisse de 55% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, qui est un objectif européen. Ça, c'est les émissions directes. Par contre, on agit aussi sur les émissions indirectes dans nos comportements d'achat. Ça renvoie beaucoup plus vers le consommateur et sa façon de faire. Et donc, par l'affichage environnemental, par exemple, on peut avoir une information sur le contenu carbone et donc, du coup, contribuer à baisser cette empreinte carbone.
Alors, 9 tonnes par habitant, par Français, debout en ce moment. Et en 2030, il faut être où ?
Alors, les tonnes de CO2, l'objectif vraiment, on l'a fixé en 2050, c'est le fameux 2 tonnes, vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont fait
cet atelier 2050, c'est assez loin.
Absolument. Ah. Et donc, du coup, on a rapproché les objectifs. Donc, 2030, c'est baisser les émissions nationales de 55%, et ça,
alors,
c'est l'objectif
européen. Faites le calcul pour moi, ça fait de 9 tonnes à combien ?
Alors, ça fait la moitié du chemin, en fait, puisque en 2050, c'est la neutralité, à la fin, on doit avoir zéro.
D'accord.
Donc on a fait déjà important depuis 1990. Donc ça, le moins 50%, c'est depuis 1990. Là, en 2022, on a fait à peu près la moitié du chemin de cette baisse de 55%. Et donc il faut faire dans les 8 prochaines années légèrement plus que ce qu'on a fait au cours des 32 dernières années. Donc la marche, le défi est énorme.
Ça s'annonce difficile quand même.
Mais la bonne nouvelle, je pense, et ça je voulais partager avec nos auditeurs, c'est que ça n'est pas irréaliste et quelque part on a un plan. Ce plan, il va nécessiter la mobilisation de tout le monde, mais il existe et il est assez crédible.
si on se pose les questions, on va se les poser assez franchement. Une question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce si important de réduire nos émissions alors que la France, c'est peu de choses sur la planète. Je vais vous faire entendre un point de vue, alors un peu ancien, mais d'Éric Zemmour, c'est une personnalité politique qui, dans la campagne présidentielle, s'était exprimé sur le sujet. Et à mon avis, beaucoup de Français se disent ce qu'il va nous dire. On l'écoute.
J'ai bien compris que l'effet de serre, c'était les émissions de CO2 qui réchauffaient la planète. Je dis simplement que les Français, la France représente 1% de ces émissions de CO2 et que donc nous n'avons pas à sacrifier les Français et l'industrie française sur l'autel de la lutte contre le réchauffement climatique, que les Américains et les Chinois commencent.
Quel est finalement le bon argument pour dire aux Français qui se disent effectivement on représente pas grand-chose, l'Europe non plus, pourquoi est-ce qu'il faut absolument se serrer la ceinture, changer de mode de vie si autour de nous les gens le font pas?
Alors, c'est vrai que la France, ça représente à peu près 1% des émissions mondiales. Après, c'est un effort aussi collectif, non seulement entre les secteurs en France, mais aussi entre tous les pays. Si la France ne fait pas sa contribution des 1%, quelle est la légitimité pour que les autres pays le fassent? Mais plus important que ça, et je pense que c'est là que j'ai un profond désaccord avec ce que dit Éric Zemmour, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi fondamentalement baisser notre consommation d'énergie fossile. Or, et on vient de le vivre cette année, vous avez fait référence à l'introduction aux crises, quand les prix du gaz, du pétrole explosent, c'est les Français qui trinquent et le pouvoir d'achat qui trinque. Sortir des énergies fossiles, avec les différentes solutions justement de la transition écologique, c'est faire aussi en sorte que demain, ils ne subissent pas ces chocs. Et ça, c'est très important du coup pour la résilience de notre pays, pour le pouvoir d'achat des Français. Et j'ajoute un dernier point qui est que c'est aussi une formidable opportunité pour nos entreprises. Par le développement de la voiture électrique, on développe des gigafactories de batteries, par exemple, en France. Ça, c'est du très concret.
Oui, il s'agit d'être les premiers sur le secteur, d'être bon. Parce que les arguments traditionnels qu'on entend, et ils sont audibles, évidemment, c'est dire, les pays anciens ont une dette vis-à-vis, puisque ce sont eux qui ont pollué, et on est des... ou alors il y a un argument qui est, il faut être un bon exemple. Ou alors un effet d'entraînement. Vous vous dites, en fait, il y a un autre terrain sur lequel il faut essayer de convaincre l'opinion.
Absolument. Le terrain à la fois de la valeur que l'on crée pour les Français, c'est aussi du pouvoir d'achat, c'est aussi du travail, et la valeur de résilience pour éviter les chocs de demain, et notamment les chocs sur les prix de l'énergie, et je pense que ça c'est essentiel pour montrer l'effort. Et pour embarquer les Français, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est que le plan d'action qu'on met sur la table, c'est un plan d'action qui est juste, c'est-à-dire que l'effort qu'on demande à chacun n'est pas le même en fonction de si on est un ménage ou une entreprise. Et je pense qu'il y a deux messages que je voudrais partager ce soir. Le premier, c'est que cet effort, il concerne tout le monde, donc il n'a pas quelqu'un à côté qui regarde les autres faire. Tout le monde doit être embarqué dans cette baisse d'émissions. Et que cet effort, on demande un peu aux petits, beaucoup plus aux gros. Un exemple que je trouve assez représentatif, quand un Français fait du covoiturage, ça contribue pour 3 millions de tonnes de CO2 sur les 220 qu'il faut baisser d'ici 2030. Dans le même temps, ArcelorMittal et les autres, avec les grosses usines, les 50 plus gros sites industriels, contribuent à hauteur de 25 millions de tonnes. 3,
donc vous
25,
leur demandez plus.
On leur demande plus. Ça illustre le fait.
Mais alors on va vérifier, parce qu'on va entrer évidemment maintenant dans chaque secteur d'activité. On commence bien sûr par les voitures et les transports. L'Europe a choisi une voie qui est celle de l'interdiction à partir de 2035 de la mise en vente de véhicules neufs thermiques. Donc tout doit être électrique. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Cette semaine, dans une interview au Figaro, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a expliqué, il n'a pas utilisé ce mot-là, mais il a dit, en fait, c'est un peu idiot comme méthode. Il a dit, on va y aller. Mais il a dit, c'est idiot parce que on aurait pu faire confiance peut-être aux véhicules thermiques de très nouvelle génération. Et en plus, tout ça, c'est un boulevard pour les voitures électriques chinoises.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je pense que la première des choses, il faut vraiment avoir conscience du rythme. C'est-à-dire, quand on dit plus de voitures neuves en 2035, en fait, le parc de voitures, lui, se renouvelle très progressivement. Très concrètement, dans ce qu'on intègre dans ce plan d'action, ça conduit à dire qu'il y ait 15% de véhicules électriques en France à l'horizon 2030. Et 15%, ça veut dire aussi 85% de véhicules thermiques qui continuent à rouler.
Oui, mais ça veut dire que deux véhicules neufs sur trois vendus devront être électriques.
Absolument, absolument.
Ah, on en est loin, hein.
Alors, ça progresse et du coup, on était aujourd'hui. Là, au premier trimestre, on avait à peu près 15% de véhicules électriques dans les véhicules neufs, avec une petite différence entre les ménages et les entreprises, 20% ménages et 10% entreprises. Donc, on voit que chez les ménages, ça progresse assez vite.
Les entreprises font pas le job, dites donc.
En fait, il faut qu'elles accélèrent, absolument.
Et vous allez les forcer à accélérer ?
Je pense qu'elles en prennent conscience et par ailleurs, dans la loi, pour le coup, il y a une obligation d'achat de pourcentage de véhicules neufs et donc elles y vont. Donc quelque part, ce petit retard-là, je suis sûr qu'elles vont le rattraper.
Ça veut dire que vous allez augmenter la taxe, par exemple, sur les véhicules de société.
Ça peut faire partie des options mises sur la table dans le projet de loi de finances 2024, effectivement.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à est-ce que c'est un boulevard pour les véhicules électriques chinois ?
La France a une stratégie de réindustrialisation très forte, notamment sur ces sujets de la voiture. Quand justement on construit des usines de batteries en France, quand on relocalise des chaînes de production, ça on contribue à faire en sorte que la France, qui jusqu'à présent produisait 2 millions de voitures sur son territoire, continue à en produire autant demain. Et donc on continue, la voiture électrique va contribuer quelque part à l'industrialisation de la France. On n'a jamais eu des parcs de véhicules uniquement de véhicules français. Ça va continuer à l'avenir. Et j'insiste sur le fait que ce qui est important pour nous, c'est le fait que l'empreinte carbone du véhicule, elle soit la plus basse possible. Et ce qu'on vient d'annoncer, ce que le président de la République a annoncé, c'est que les aides de l'État, le bonus par exemple, il serait conditionné à l'empreinte carbone du véhicule. Ça veut dire quoi concrètement pour les auditeurs ? Ça veut dire d'une part que quand on produit la voiture, il ne faut pas la produire avec des énergies fossiles. Et ça, pour le coup, la France a un atout exceptionnel avec à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire. Et ça veut dire aussi que le transport des véhicules neufs ne doit pas être trop loin pour ne pas émettre des émissions de gaz à effet de serre quand on ramène les voitures en France.
Mon petit doigt me dit qu'on reparlera avec Anne Brago dans un instant, notamment du poids des véhicules. Mais évidemment, la question, c'est comment on évite les gilets jaunes. Parce que je l'ai rappelé en introduction, vous étiez à l'Élysée au moment des gilets jaunes. Je crois même qu'Emmanuel Macron, lors d'un pot de départ, avait dit « Grâce à Antoine Peillon, je me suis déplacé sur la France entière parce qu'il était un peu, c'est lui qui avait mis au point la taxe carbone ».
Alors, c'est beaucoup.
C'est peut-être beaucoup, faire beaucoup d'honneur à un conseiller technique, je le reconnais.
Absolument. Non, mais je pense que le message principal de cette
période-là... C'est comment éviter que l'opinion, finalement, se révolte contre les mesures qui seront prises.
C'est pour ça qu'il y a deux choses. Je pense que, un, il y a une nécessité absolue d'accompagnement de tous les Français. Quand le président de la République parle de leasing pour les véhicules à 100 euros pour les ménages les plus modestes, on contribue à apporter une solution. Mais le deuxième message aussi, c'est la répartition de l'effort que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est important que tous les ménages... On a parlé des 9 tonnes par Français. Je pense que c'est important de souligner que tous les Français n'émettent pas ces 9 tonnes-là. Entre un ménage modeste, un ménage plus aisé, il y a une grande différence. Et donc, il ne faut pas mettre, un, tous les Français dans le même sac, quelque part. Mmh. Et deux, c'est important aussi d'avoir cet effort proportionnel en fonction d'où on est.
Alors, voyons ce que pourraient penser les Français. Prenons un exemple extrêmement concret. Est-ce que vous pensez souhaitable de passer la vitesse maximale sur les autoroutes de 130 à 120 ou 110 km/h. Est-ce que ça fait partie du plan que pourrait annoncer le président de la République et la première ministre au prochain conseil de planification écologique qui aura lieu le 17 juillet. Alors, le 110 km/h, c'est oui ou c'est non ?
Alors, le président et la première ministre sont déjà exprimés sur le sujet pour dire qu'on ne le ferait pas de façon obligatoire. Baisser la vitesse de 130 à 110, ça rapporte, entre guillemets, une baisse de 1,4 million de tonnes de CO2 sur les 220 qu'on doit faire au total.
Donc c'est
utile, mais c'est pas. Ça dit quoi au fond ? Ça dit que
donc vous ne croyez pas aux petits pas, vous croyez aux grands pas.
Non, je crois qu'il y a plein de petits pas possibles. Quand on les agrège, ça fait un grand pas, mais que c'est pas, on peut un peu les choisir. Est-ce que le plan qu'on met sur la table, il permet d'atteindre l'objectif ? Il permet de l'atteindre sans avoir cette mesure-là. Et donc, quelque part, on évite ce qui est un irritant très fort, tout en atteignant l'objectif. Et je pense que c'est le choix du pragmatisme, quelque part, et de l'efficacité.
Passons au logement. Il y a eu une petite polémique, enfin, peut-être le début d'une grosse polémique, sur le remplacement des chaudières au gaz. L'idée s'est un peu installée que le gouvernement allait dire stop à l'installation de nouvelles chaudières à gaz en 2026. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On va écouter d'abord quelqu'un qui réagit, c'est un professionnel. On l'écoute.
Il me semble que 2026 est bien trop proche et qu'il ne faut pas stigmatiser la chaudière. Il me semble qu'on revit en fait un peu dans le siècle dernier quand on a supprimé l'ensemble des tramways du site urbain et que depuis maintenant 30 ans, on recommence à poser des tramways sur l'ensemble du territoire. Donc, mais on peut travailler, me semble-t-il, sur un système intégré gaz, biogaz et hybride pour pouvoir amener à des résultats et relever le défi de la transition énergétique.
2026, pas 2026, c'est le président de la CAPEB, c'est les artisans du bâtiment.
Je pense que là, il ne faut pas se faire peur pour rien, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qui est important et ce qu'on pose sur la table...
Donc c'est non.
C'est le fait de dire qu'il faut qu'en 2030, on ait baissé de 20% le gaz dans le chauffage. Donc 20% en 2030, ça n'est pas arrêter le chauffage gaz, très clairement. Et donc là, et par ailleurs, il y a plusieurs solutions alternatives. Et quand on parle de gaz, il faut bien distinguer le sujet du gaz naturel, du gaz fossile, et puis du biogaz. Le biogaz, ça permet de contribuer à la baisse des émissions, donc c'est une bonne chose. Donc on peut avoir une chaudière avec du biogaz. De la même façon, on peut avoir une pompe à chaleur qui peut être hybride, par exemple, le président de la CAPEB l'évoquait, ça, le gouvernement est tout à fait d'accord avec ça.
Mais elles ne sont pas importées de Chine, là aussi, les pompes à chaleur.
Alors, et ça, c'est un point important. C'est-à-dire, quelle que soit, in fine, la solution qui sera retenue, qui sera annoncée, ce qui est certain, c'est qu'on va laisser le temps nécessaire à nos entreprises françaises pour monter en capacité, notamment Atlantique, Frisquet, savoir être en capacité de produire les pompes à chaleur hybrides ou les autres dispositifs de chauffage qui vont permettre d'être produits en France et que ça ne conduise
pas
à une importation
massive. Donc vous nous dites un peu ce soir, pas de brutalité sur ce sujet.
Non, pas de brutalité, clairement pas. Par contre, un objectif de résultat qu'on va tenir.
Un mot sur l'agriculture. La Cour des comptes a fait, il y a quelques semaines, un rapport qui a un peu surpris pour dire qu'il fallait moins de vaches. On ne savait pas que la Cour des comptes était spécialiste du parc bovin. En France, le président de la Cour des comptes, le premier président, Pierre Moscovici, était un tout petit peu embêté. On l'écoute.
Nous avons pris en France des engagements pour une économie carbone neutre en 2050. Et il y a 11,8% des émissions qui viennent de l'agriculture. Donc il faut changer notre modèle agricole. Et c'est notamment lié à l'élevage bovin. Je veux dire aux agriculteurs que je comprends leur émotion, parce que c'est vrai, la Cour des comptes doit mieux prendre en compte aussi les préoccupations sociales.
Alors, Pierre Moscovici comprend la préoccupation des agriculteurs. Bon, vous, l'État, il faut baisser le nombre de vaches ou pas en France ?
L'agriculture aujourd'hui, c'est 20% des émissions, et donc c'est ça qu'il faut absolument réduire. Et l'agriculture, c'est aussi par ailleurs la production de biomasse, et par exemple, pour décarboner nos énergies, on a besoin de bioénergie et donc de biomasse. Dans le monde de demain, on va avoir besoin de plus d'agriculture qu'aujourd'hui, et de forêts aussi. Et donc c'était, pour la transformation de ce secteur agricole, c'est une bonne nouvelle. C'est un secteur en devenir, qui va devoir beaucoup se transformer, oui, mais en devenir. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. Je voudrais insister sur le fait de dire, par ailleurs, l'agriculture, c'est aussi ce qu'on appelle un puits de carbone. Les sols, tout comme les forêts, ils absorbent du gaz à effet de serre, dans nos sols,
donc
dans nos plantes,
etc. Tout dans tout, l'effort demandé à l'agriculture ne sera pas si considérable
que ça.
Alors non,
la transformation du secteur agricole, elle est importante, c'est une grosse transformation. Mmh. Et par contre, il faut, je pense, poser la bonne question, c'est-à-dire le sujet, c'est pas de baisser le nombre de vaches pour baisser le nombre de vaches, c'est baisser les émissions d'élevage.
Parce que si on apporte de la viande du Brésil, on n'est pas...
Mais ce qu'on veut, c'est baisser les émissions de l'élevage, baisser les émissions des cultures. Donc ce qu'on a mis sur la table, c'est qu'il faut que l'élevage baisse de 5 millions de tonnes de CO2. Et pour ça, il y a différentes façons d'y arriver. Et donc notamment, quand on modifie la façon d'exploiter un troupeau, l'alimentation animale, etc., ça contribue aussi à la baisse. Donc nous, on rentre pas dans le sujet en disant c'est forcément la baisse du nombre de vaches. On dit qu'il ne faut pas forcément baisser les émissions et travaillons sur les différentes options. Et pour le coup, le secteur agricole répond présent dans cette discussion et avec ce même objectif de résultat.
Alors, encore deux questions précises pour finir cette première partie. La première, c'est aujourd'hui, en France, il y a à peu près 9000 éoliennes, mâts. Voilà. En 2030, combien de mâts d'éoliennes auront poussé sur le territoire français ?
Alors, on ne les a pas comptés, mais ce que je peux vous dire, c'est que on a pour l'instant, l'objectif, c'est de garder le rythme d'installation annuelle du nombre de mâts. Et donc, c'est ça notre plan pour pouvoir atteindre l'objectif 2030. Sachant qu'on a une loi d'accélération qui vient d'être votée, qui va conduire à beaucoup augmenter, notamment le photovoltaïque et l'éolien en mer, de façon à pouvoir sécuriser notre approvisionnement décarboné pour 2030.
Antoine
et bien sûr,
Pélion,
il y a aussi le sujet
Antoine
du nucléaire.
Pélion, c'est une réponse un peu de très haut fonctionnaire. Moi, je suis un journaliste. À ma question très simple, 9000 mâts aujourd'hui, combien en 2030, si on poursuit le rythme, comme vous nous le dites, d'installation ?
Encore une fois, on les a pas comptés. Par contre, c'est moins que 9000, ça c'est certain, parce que du coup, on progresse le rythme
annuel.
Ça
veut dire qu'on ne doublera pas ?
On ne doublera pas le nombre de mâts en France.
Ça va augmenter de quoi ? 20%, 30%, 40%?
En fait, ça dépend aussi beaucoup, désolé, même si ça peut paraître une réponse. En fait, les éoliennes, leur taille grandit, et donc de ce fait, ce n'est pas le nombre de mâts qu'on regarde, c'est la puissance
la
aussi
puissance
des éoliennes.
Augmente.
Et donc on peut
donc
avoir
la puissance,
sur un même
c'est la hauteur aussi, alors, la hauteur.
Elle peut augmenter. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait de se dire, le point là où il faut vraiment accélérer, c'est vraiment photovoltaïque, éolien en mer, et le but, c'est de garder le rythme, tout simplement, sur la partie d'éolien terrestre.
Et ça veut dire qu'il faut plus d'éolien, plus de solaire, parce que le nucléaire, il ne marche pas tellement quand même. Hein. Le nouveau nucléaire, il ne va pas arriver avant 2045.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes, c'est-à-dire c'est combien de temps nous faut-il pour construire du nouveau nucléaire ? C'est une question qui est assez indépendante du fonctionnement du parc actuel. Le nouveau nucléaire, il faut une quinzaine d'années pour construire les réacteurs, donc effectivement, on n'aura pas de puissance sur le réseau avant 2035. Après, le nucléaire existant, il
oui,
faut qu'il marche
2045,
bien.
Oui, j'ai dit 2045, c'était 2035, pardon.
Il faut qu'il marche bien, et ça, EDF a fait, quelque part, a mené des réparations, donc les résultats commencent à payer, et donc il faut continuer pour pouvoir retrouver, quelque part, le productif français. Et ce que je vous dis là, c'est avec une hypothèse relativement raisonnable en termes de production
pour
de
tout ça, il va falloir investir de manière considérable. Le gouvernement doit annoncer le 17 juillet le plan d'investissement. On sait que Jean Pisani-Ferry, l'expert économiste qui a travaillé sur le sujet, avait dit « bon, il faut globalement que les finances publiques mettent 30 milliards d'euros par an supplémentaires ». Vous, vous allez annoncer...
Alors c'est pour ça que le président de la République a reprogrammé le 17 juillet prochain un conseil de planification écologique. Donc nous, on partage un peu le chiffrage du besoin d'investissement du rapport Pisani. Et on pense aussi que l'État, mais pas que seulement l'État, les collectivités aussi, la Caisse des dépôts doivent contribuer au financement. L'ordre de grandeur de la moitié est raisonnable.
Si je vous dis, voilà, j'entends l'ordre de moitié, mais si je vous dis plus précisément, l'État va mettre sur la table et annoncer 10 milliards par an, est-ce que je suis complètement dans le cirage?
C'est un ordre de grandeur qui est le bon ordre de grandeur de ce qu'il faut pour accélérer.
Merci, voilà pour cette première partie. Dans un instant, vous allez débattre avec Anne Bringo qui nous rejoint, mais une pause musicale comme dans ces émissions d'été, c'est l'habitude et une bonne habitude, le temps de vérifier si vous êtes, chers auditeurs, auditrices, au volant dans votre voiture, que vous êtes sur la bonne route.
Si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sur la main, tu le prends. Ce que tu dois. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
C'était La Route par Arthur H.
France Inter. Dominique Seux. L'écho de l'été.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Pélion, le secrétaire général à la planification écologique à Matignon, auprès de la Première ministre, sur toutes les questions de transition écologique et énergétique. Et maintenant, avec Anne Bringot, qui est directrice des programmes du réseau Action Climat, qui travaille sur ces sujets depuis 2005, et la parole, c'est la vôtre.
Effectivement, et c'est vrai que depuis 2005, on a plutôt vu des difficultés au niveau de la France pour tenir ses objectifs sur le climat et l'énergie. En fait, l'enjeu maintenant de cette planification écologique, c'est comment elle s'accompagne de mesures concrètes pour tenir ses objectifs et comment il y a un programme de financement pluriannuel pour assurer qu'on tient ses objectifs. Mais je vais rentrer dans du beaucoup plus concret, en commençant par le premier enjeu qui est la place donnée à la sobriété. Évidemment, en s'adressant en priorité à ceux et celles qui consomment le plus, par exemple le véhicule électrique dont vous parliez précédemment, mais pour que le véhicule électrique ait moins d'impact sur l'environnement, notamment avec ses batteries, il faut qu'il soit petit et léger. Et actuellement, les constructeurs automobiles, ils ont décidé de produire des véhicules électriques de haut de gamme, très lourds et chers, et ils se plaignent ensuite que les Chinois vont venir chez nous vendre des petits véhicules électriques. Donc, quelle part de petits véhicules électriques avez-vous dans vos plans? Est-ce que vous prévoyez un malus sur les véhicules électriques les plus lourds?
Alors, pour répondre très clairement à la question, il existe déjà un malus poids et on va un peu le durcir. Mais je voudrais revenir un petit peu plus globalement sur cette question de la sobriété. Dans le plan qu'on a mis sur la table, il y a à peu près, ça c'est un chiffre important, 60% des baisses qui sont la généralisation de solutions qui sont matures. Et sur les 40% restants...
Ça veut dire quoi, qui sont matures?
Par exemple, la voiture électrique, elle existe, on la déploie. Par exemple, on peut changer de système de chauffage, et ce n'est pas une innovation pour pouvoir réussir. Et puis, pour le reste, il y a quand même 40%, c'est un effort important. C'est pour moitié de l'innovation technologique et pour moitié, du coup, du changement de comportement et donc de la sobriété. Ce qui veut dire 20% de sobriété, 20% d'innovation, 60% de généralisation de choses qui sont matures. C'est-à-dire que ce plan, il est assez équilibré en réalité.
Chacune de nos consommations individuelles d'énergie, d'une manière générale, on doit baisser de 20%.
Alors, c'est un peu schématique, mais c'est l'ordre de grandeur quand même, dans ce moment de changement de comportement. Et ça, c'est important, parce que ça montre qu'on n'est ni dans la caricature du technosolutionnisme, quelque part, ni dans celle du tout sobriété. Il faut absolument de la sobriété, ça y contribue, mais ça ne peut pas se réduire uniquement à la sobriété.
Du coup, donc, la taille des batteries, c'est vrai que c'est un sujet.
Très clairement,
et le poids du véhicule.
Clairement, le sujet, c'est le poids du véhicule, et donc la taille de la batterie qui est assez liée au poids du véhicule. Là, il y a des progrès qui commencent, mais qui sont pour l'instant encore insuffisant, donc il nous faut des voitures demain un peu plus légères. C'est un problème d'ailleurs de lithium notamment. En plus des questions d'émissions de gaz à effet de serre, le lithium est une ressource limitée. La France, du coup, devrait consommer à peu près 5% du lithium mondial pour pouvoir répondre à ce plan-là. Et ça, c'est beaucoup parce que du coup, le poids économique de la France, c'est 3%. Donc il nous faut baisser un peu le poids et puis il nous faut surtout développer la façon dont on recycle ces batteries-là de façon à ce que le lithium qui est en France reste en France quelque part pour le bénéfice des Français.
Soyons très précis, est-ce que les constructeurs automobiles français notamment mettent sur la route des véhicules trop lourds ou pas?
Très clairement, les constructeurs français mettent sur la route des véhicules qui sont un peu plus légers qu'un certain nombre d'autres concurrents quand on regarde les différentes importations. Il y a des véhicules très lourds qu'on importe, et ça je pense qu'on va avoir aucun état d'âme. Et après, il faut accompagner l'ensemble des constructeurs français pour vraiment que le poids globalement baisse, et je pense que la trajectoire qui commence à être prise va dans le bon sens, même si c'est encore un peu insuffisant.
Qu'allez-vous faire pour baisser ce poids des véhicules électriques?
Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait l'outil qui était le malus poids. Ce malus poids, il existe d'ores et déjà et on va le renforcer très clairement.
Sur le véhicule électrique.
Sur le véhicule électrique. Sur les véhicules en général, dont les véhicules
électriques. Quelle partie du parc, quelle est la proportion des voitures neuves mises en vente qui ont un malus poids?
Pour l'instant, c'est très peu, c'est un ou deux, c'est quelques pourcents. Et donc c'est ça qui va.
Bon,
l'objectif,
vous êtes satisfait de
l'objectif
cette réponse.
Pour être extrêmement clair, ça n'est pas de mettre des malus à tout le monde, c'est de faire en sorte que le poids des véhicules évolue pour que du coup le malus n'ait pas à s'appliquer. Donc l'objectif, c'est pas qu'on ait plein de véhicules qui soient malusés. L'objectif, c'est que les poids globalement de l'ensemble des véhicules baissent.
Vous n'êtes pas complètement rassuré sur le fait qu'il y ait des petits véhicules électriques populaires fabriqués par les constructeurs français, idéalement en France, et qui permettent à une grande partie de la population, y compris avec des bas revenus, de se déplacer dans le monde à venir, et c'est un vrai sujet de préoccupation. Peut-être deuxième sujet, justement, qui rejoint tout ça, c'est la question, en fait, finalement, de la répartition des efforts efforts et de fait de ne laisser personne de côté. Et ça rejoint cette question de l'accessibilité aux petits véhicules électriques. La justice sociale, il doit être pleinement intégré pour que les solutions soient accessibles à tous les ménages. Actuellement, ce sont les ménages les plus aisés qui peuvent acheter un véhicule électrique ou qui peuvent isoler de manière performante leur logement. Il faut par exemple réduire la précarité énergétique, c'est un enjeu clé, vous en parliez tout à l'heure. Vous prévoyez de remplacer les chaudières au fioul et une partie de chaudières au gaz par des pompes à chaleur, mais il faut permettre aux ménages d'isoler de manière performante leur logement parce que c'est ça qui va réduire la consommation d'énergie et réduire du coup les factures. Or, dans la planification écologique en gestation, j'ai cru comprendre que vous mettiez davantage l'accent sur le changement de mode de chauffage. Est-ce qu'il est vrai qu'il est prévu de plus, davantage de simples changements de chaudière que de rénovation performante des logements chaque année?
Donc ça, c'est votre question.
Combien il restera de passoires énergétiques en 2030? Combien il restera de ménages en situation de précarité énergétique?
Pour être très concret, un logement, vous avez l'étiquette énergétique du logement, A, B, C, D, jusqu'à F et G, que sont les passoires. Très schématiquement, un logement A, B, C, D, du coup, qui est correct, qui est pas trop mal isolé, la priorité, ça va être de changer son changement de chauffage de façon à ce qu'on n'ait pas d'énergie fossile. Pour les logements qui sont du coup E, F, G, donc ceux qui sont très mal isolés, là, il n'y aura pas le choix, il faut commencer par faire une rénovation lourde, une rénovation performante.
Combien de rénovations performantes par
première
an
ministre, du
prévoyez-vous
coup,
par rapport au changement de chaudière?
A fixé l'objectif du coup d'avoir 200 000 rénovations performantes dès l'année prochaine. On était autour de 70 000 aujourd'hui de mémoire.
Comment on passe de 60 000 à 200 000 en un an?
C'est plusieurs choses. On ne commence pas maintenant au sujet, on l'attrape déjà, on le traite depuis déjà plusieurs mois. Et donc on a mis en place un réseau d'accompagnateurs individualisés qui va monter en puissance et qui est en train de monter en puissance à partir du mois de septembre pour accompagner chaque ménage dans ses travaux performants, des recommandations de travaux, des solutions de financement, etc., etc. Ça, c'est le premier. Après, il y a aussi des guichets de proximité. Il faut que les gens soient accompagnés physiquement. Mmh. Et donc ça, on va les augmenter. Et puis, on augmente les aides aussi financières. Et ça, ça sera des annonces qui seront faites dans le Conseil des planifications
écologiques. Et à quelle date la fin des passoires énergétiques qui était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017 pour 10 ans plus tard, donc 2027?
On cherche du coup à aller le plus vite possible. Je pense qu'en 2027, il en restera encore quelques-unes. L'objectif, c'est on n'arrive pas chez les gens en disant on vous impose des travaux. On convainc les personnes, du coup, en les accompagnant, qu'il faut les faire, ces travaux.
Et en leur donnant les moyens, parce qu'effectivement, les ménages, beaucoup de ménages n'ont pas les moyens financiers
absolument
de faire ces travaux.
Et les restes à charge sont différents. Les restes à charge sont très élevés pour les ménages très modestes, modestes, et ensuite sont plus légers pour les ménages et des cils supérieurs, 8 et 9 par exemple.
Alors, une dernière question, Anne Bringot.
Principe pollueur-payeur, on en entend beaucoup moins parler, et pourtant c'est un enjeu clé, surtout s'il est juste. Et je vais prendre l'exemple du transport aérien, il est utilisé surtout par les ménages aisés, et il n'est quasiment pas taxé, contrairement au carburant des voitures ou au transport ferroviaire. Ces cadeaux fiscaux au transport aérien représentent chaque année plus de 7 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État, ce qui permettrait de dégager des moyens financiers pour les transports alternatifs. Donc, est-ce que dans la planification écologique, il y a une réelle volonté d'agir sur la pollution du transport aérien et de baisser le trafic? Et est-ce que pour cela, vous allez rééquilibrer de manière significative la fiscalité entre les différents moyens de transport? Et vous allez me dire, c'est au niveau européen ou international, donc je vous dirais aussi, on le sait, vous et moi, qu'on peut déjà agir au niveau national avec ce qu'on appelle la taxe Chirac ou avec la fiscalité sur le kérosène sur les vols intérieurs.
Et alors moi, je complète la question en donnant l'argument des compagnies aériennes et des constructeurs aéronautiques qui est, on a besoin de trafic pour financer les recherches et l'achat de carburant durable. Donc, on a deux thèses. Voilà, il faut choisir. Ou ne pas choisir, à vous de voir.
Là, il y a plusieurs leviers pour y arriver. Le premier, c'est déjà de mettre en place des biocarburants pour l'aviation. Et ça n'est qu'une petite partie de la réponse, et ça n'est pas toute la réponse, et je vais venir sur la question de la taxation et de la baisse de la sobriété, parce que je suis d'accord que ça doit être combiné. Mais quand même, sur les biocarburants, et ça c'est de l'investissement sur lequel parle le programme France 2030 du gouvernement qui soutient l'innovation, on a mis de l'argent sur la table, le président de la République l'a dit au salon du Bourget il y a quelques semaines, et donc on va avoir entre 6 et 10% de biocarburants à l'horizon 2030 dans les biocarburants aériens. Et pour répondre très directement à votre question, oui, on va augmenter la fiscalité sur les billets d'avion. Cette fameuse taxe Chirac, Elisabeth Borne, en tant que ministre des Transports, l'avait déjà fait une première fois il y a quelques années. Et donc, elle l'a déjà annoncé en réalité au mois de février dans le programme de financement des infrastructures de transport du plan ferroviaire. Le secteur aérien sera mis à contribution pour financer notamment l'investissement.
Est-ce que ça sera suffisamment significatif pour avoir un impact?
Pour être précis, un billet aujourd'hui à 100 euros, demain il est à combien?
Quelques euros de plus.
D'accord.
Mais donc, pour être très précis, parce que, et ça c'est un point important, et c'est la même chose que votre question sur les autoroutes tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qu'on a programmé, ça n'est pas de se dire quel est le maximum dans tous les secteurs dès 2030, c'est qu'est-ce qui est atteignable de façon réaliste en 2030 pour atteindre l'objectif de baisse de 50%, sachant que toute la vie ne s'arrête pas en 2030 et qu'ensuite on doit atteindre la neutralité carbone et on va continuer à accélérer. Donc ce que je dis là, c'était une première étape vers 2030 et ensuite on ira plus loin et dans la sobriété et dans les biocarburants, notamment pour ne parler que de l'aérien.
Mais c'est vrai que sur l'aviation, on a un discours qui est... Le discours mondial, c'est la demande va continuer d'augmenter, en réalité.
Et c'est là où il faut vraiment se préoccuper des ressources aussi, des ressources naturelles notamment. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand chacun des secteurs a une croissance très forte dans chacun des secteurs, et donc notamment se dit je vais décarboner en reposant sur les e-fuels, sur les biocarburants, il faut qu'on s'assure de la soutenabilité de tout ça. Est-ce qu'on a assez de biomasse demain pour le satisfaire? Est-ce qu'on a assez d'hydrogène, d'électricité?
Alors et soutenabilité c'est ça sur les ressources, qu'elles soient rares ou pas rares, mais soutenabilité aussi sur la croissance, sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui fait notre vie quotidienne. Quel est l'équilibre, selon vous?
Absolument. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur la temporalité de tout ça. C'est-à-dire que là, le plan d'action qu'on met sur la table, c'est celui des 7 prochaines années pour faire cette première marche. Et donc, c'est une reconfiguration déjà de la façon de se déplacer et qui ne pousse pas tous les curseurs jusqu'au bout d'ici 2030, mais qui fait déjà un pas très important. On n'est plus dans les petits pas, on est vraiment déjà sur une marche très importante. Et ensuite, on prépare du coup la phase suivante. Et d'ores et déjà, c'est des changements de comportement qu'il faut commencer à mettre dans les esprits, c'est des nouvelles techniques. Et donc, toute cette préparation, elle permettra d'aller encore plus loin de 2030 à 2050, et la marche restera encore importante à
franchir. Vous connaissez la formule utilisée par le Haut Conseil pour le climat, c'était il y a 10 jours. On n'en est plus aux petits pas. C'est bien, mais on est très loin du pas de course.
Quand je vous dis qu'en 8 ans, il faut faire plus qu'en 32 ans, je pense qu'on démontre qu'on n'est plus du tout dans les petits pas.
Est-ce que quelques euros sur des billets d'avion, est-ce que pousser un tout petit peu les constructeurs automobiles français à faire des petits véhicules électriques, est-ce que seulement accompagner, faire 200 000 rénovations performantes par an, c'est suffisant? Ou est-ce qu'on est encore dans le domaine du petit pas? Là-dessus, nous, on a quand même un petit doute.
Vous dites, on est encore sur les petits pas.
On est loin du compte. Exactement, la cohérence entre les objectifs qui sont ambitieux et les mesures n'est pas encore là.
Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci Antoine Pélion, Anne Bringaud. C'est la fin de cet écho de l'été. Merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Valérie Lavalard, à la recherche de son Laura Dumez. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission et celles qui l'ont précédée sur le site de l'Écho de l'été France Inter. Bonsoir à tous.